Bonjour messieurs et mesdames. Voilà, il nous reste maintenant à envisager, déjà bien sûr, la fin des exposés de cette année. Alors, il me reste, je pense, deux choses à faire avec vous. La plus importante, ce sera pour la dernière leçon, lors de la semaine prochaine, où je tenterai de faire avec vous une synthèse de ce que les cours des 4 ou 5 dernières années nous ont appris sur le processus de création des textes avestiques à proprement parler. Hein, ce serait naturellement quelque chose qui est essentiellement, comme diraient les Anglais, tentatif. Hein. Ce sera cela. Mais aujourd'hui, puisque nous avons tenté de voir les grandes orientations du Panthéon avec cette opposition des dieux qui sont conservés, des dieux qui naissent aussi, il faudrait dire un mot de Mitra. Je préviens tout de suite, je ne vais pas vous apprendre quelque chose de très nouveau lors de ces leçons-ci. Simplement quelques détails sur son yacht, parce qu'il nous reste tout de même à envisager son yacht avec les méthodes qui nous sont propres et que nous avons mises au point depuis maintenant une dizaine d'années. Alors, le problème du dieu Mitra, c'est qu'il a un dossier comparatif extrêmement imposant, car le dieu Mazdéen, le dieu de l'Avesta, le Mitra de l'Avesta, est en quelque sorte cerné, entouré par deux personnalités divines impressionnantes. D'une part, le Mitra du Rig Veda, le dieu avestique Mitra, et puis le Mitra des mystères romains, qui est appelé Mithras. Et il n'est pas indifférent de signaler tout de suite que lorsque les auteurs grecs et romains parlent du dieu iranien, non pas du Mitra des mystères, ils l'appellent autrement, ils l'appellent Mithras. Je ne vais pas m'attarder sur le Mitra des mystères, je vous l'ai dit lors du cours de l'année 1998, et pour répondre aux questions privées de certains d'entre vous aussi, ben, nous savons aujourd'hui que, d'une manière très empirique, il n'y a rien dans le Yacht 10 à Mitra qui rappelle les mystères romains. Rien. J'en faisais, très jeune étudiant, déjà la remarque à Duchesne d'Himin, à une époque où les hypothèses de Franz Cumont qui tentaient d'établir l'origine iranienne de beaucoup de motifs de ces mystères romains, n'est-ce pas ? Je faisais la remarque à Duchesne d'Himin, mais il n'y a rien. Il n'y a rien dans l'IHT10 que nous pouvons réellement rapporter à ces motifs que l'archéologie nous a fournis. Maintenant, c'est une hypothèse qui est absolument reçu et que l'origine du Mitra romain doit être cherchée ailleurs que dans le mazdéisme avestique, en tout cas pas depuis le fameux article de Richard Gordon dans les actes du colloque sur les études mitraïques qui s'est tenu à Manchester en 72 et les actes ont été publiés en 75. Si certains d'entre vous sont intéressés par cet bel article qui est une démolition en règle des théories de Franz Cumont, je pense que vous pouvez vous adresser à Samra Zarnouch, elle vous dira comment pouvoir en prendre connaissance. Alors, il y a donc un Mitra indo-iranien, un dieu Mitra védique, un dieu Mitra avestique. Alors, il y a ici aussi, naturellement, ces deux dieux sont nécessairement plus apparentés que le Mitra ne pouvait l'être avec le Mitra romain, n'est-ce pas ? Mais ici aussi, nous devons bien voir qu'il y a un paravent, pour la comparaison. Cela a été très bien montré dans le compte-rendu que Kuiper a fait en 1961-62 de l'édition du IH10 à Mitra par Gershevitch. en montrant que l'on ne pouvait estimer qui était la divinité védique Mitra, que dans le couple qu'elle forme traditionnellement avec le dieu Varuna, les deux dieux étant invoqués ensemble dans les hymnes et au moyen d'un dvandva, qui est donc sous la forme donc Mitra Varuna. C'est que le Mitra védique ne se comprend qu'à l'intérieur de ce groupe. On peut voir aussi que c'est un peu le cas d'Indra dont nous avons parlé, surtout au séminaire. Les hymnes védiques généralement invoquent aussi Indra, en couple avec le dieu Vayu. Et les invocations se font Indra-Vayu. Il y a une tendance dans les hymnes védiques à associer ainsi les divinités en groupe réunis en dvandva. Alors, pendant très longtemps, le fait que Mitra ait été associé à Varuna et que le dieu Varuna soit absent de l'Avesta a paru au contraire un point de comparaison extrêmement intéressant. Car je vous rappelle que c'était une théorie, une hypothèse reçue pendant très longtemps dans nos études que Ahura Mazda était le nouveau nom, le nom mazdéen, le nom iranien du dieu Varuna. On y voyait, mais nous reviendrons, une preuve dans le fait que justement Ahura Mazda et Mitra dans l'Avesta récent sont eux aussi invoqués en dvandva. Donc Ahura Mitra, soit ici à l'accusatif singulier, n'est-ce pas, dans l'accusatif singulier du dvandva. Donc ce serait le reflet avec substitution d'inon du dvandva védique Mitra Varuna. Bien. Alors aujourd'hui, cette hypothèse est critiquée, entre autres par notre collègue Cherveux, qui je partage cette opinion avec lui, que Ahura Mazda n'est pas Varuna, qu'il est plutôt Dyauspitar. C'est le reflet avestique iranien de l'antique divinité qui est le Père Ciel. Or, Dyauspitar ne peut pas être égalé à Varuna. Et d'autre part, nous savons aussi que Varuna, en dépit de toutes les tentatives, a quelque chose d'autre qui est commun avec Indra, c'est que son nom n'est pas sûrement étymologisable. Il n'y a pas d'étymologie parfaite du nom de Varuna. Il suffit d'ailleurs de contempler le mot, n'est-ce pas, dans un cadre strictement indo-iranien. Un mot de trois syllabes de ce type pose nécessairement un problème, une fois que l'on ne peut isoler un suffixe qui serait disyllabique. Or, una n'est pas un suffixe productif, il n'existe pas en tant que suffixe. Il y a donc quelque chose nécessairement de plus subtil, si le nom est indo-européen, ce dont je ne suis pas sûr, ou alors c'est un de ces dieux védiques qui proviennent, Dieu sait d'où. Nous ne pouvons pas comme Indra. Donc il y a nécessairement aujourd'hui, il faut que nous nous en rendions compte, comme pour Vertrakna, une zone tampon qui sépare l'état indo-iranien des choses de ce que nous trouvons en védique d'une part, en avestique d'autre part. Très certainement, nous pouvons identifier ce qui occupe cette zone tampon du côté indien. C'est la formation du couple Mitra-Varuna. Mais ce qui se passe du côté iranien, nous ne le savons pas. Est-ce que nous avons des chances d'y parvenir en appliquant les méthodes qui ont été appliquées par Renou et Benveniste dans leur analyse du dieu Vertrakna? Eh bien, que nous apprend le mot que nous appelons le mot Mitra? Sa dérivation est claire, c'est un nom antra. Les noms antra sont soit masculins, soit neutres. Ils sont le plus souvent neutres, mais le nombre de masculins est très fréquent. Ils sont aussi indifféremment, parfois au degré zéro, parfois au degré plein. Il semble donc bien que le nom de Mitra soit un degré zéro. Hein, c'est un degré zéro. Seulement, si la formation est claire, c'est la racine qui est difficile à identifier. Ce n'est pas du tout le cas du nom des Fabashi. C'est une autre situation. C'est que, bon, si nous nous en remettons à l'apparence formelle, nous allons poser une racine. On doit supposer que le nom de Mitra provient d'une racine mi. Mi. Or, il y a trois racines mi, mais faiblement attestées et avec des sens qui ne vont pas nous apprendre grand-chose. La première racine mi signifie changer. Changer. C'est la racine qui est à la base de cette force qu'exerce Varuna, justement, et qui est la Maya. C'est-à-dire la capacité de changer magiquement les choses, pouvoir occulte, le pouvoir de transformer les choses, la Maya. Le verbe signifierait donc changer. D'autre part, le verbe mi, la deuxième racine mi, c'est un verbe qui veut dire abîmer quelque chose, l'endommager. On est loin du contexte ritualiste que l'on pouvait trouver avec le nom des Fravashi, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est extrêmement faible. Troisième racine, mi, construire, plus exactement, très concrètement, dresser un pilier. Alors, vous voyez que l'analyse étymologique du mot, c'est même pas de l'étymologie, c'est l'apparence même du mot, n'avance pas à grand-chose. Y a-t-il dans les autres langues indo-européennes un mot qui soit apparenté au nom de Mitra? Il n'y a rien d'absolument sûr. Il y a en grec le mot « mitré » qui signifie la ceinture. Mitré, la ceinture. Il y a bien le russe « mir », le monde, la paix, mais il est envisagé que ce soit un emprunt à l'iranien. Et ensuite, mais ne me demandez pas trop de détails, je ne connais pas bien la phonétique des langues germaniques. Le mot Mitra est à la base de l'allemand Markt, le nom du marché. Vous allez voir que ça convient assez bien au point de vue du sens. Alors, vous voyez que c'est la notion de base qu'il est difficile d'appréhender. Ce n'était pas le cas avec Fravashi, ce n'était pas le cas avec Vertrakna, ce n'était pas le cas avec Srausha, ce n'était pas le cas avec Ashi. L'analyse des contextes, dès lors, ne va pas être extrêmement significative, car je vous pose la question, il est très clair que qu'en serait-il de notre connaissance des divinités Fravashi si on ne pouvait l'approcher que par le contexte? Il y a une telle distance entre la notion théologique et l'imagerie mythologique que les textes ne sont pas toujours informatifs. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, souvenez-vous, il a été si pénible, si long, parce qu'il a fallu attendre 1980 pour fournir une explication satisfaisante du nom des Fravashi. C'est en partie à cause de la disparité profonde entre le contexte des Yasht et la notion théologique. Alors, la base pour dire ce qu'est Mitra, c'est un dieu qui a été analysé en 1907, c'est l'article de référence, vous voyez que c'est déjà ancien, dans le journal asiatique par Antoine Meillet. Et Antoine Meillet a repris son analyse dans cet exposé sur la religion indo-européenne qu'il a fait l'année suivante dans le journal des idées, hein, cet article de vulgarisation. Alors, Meillet a reconnu dans le Mitra indo-iranien une allégorie, celle du contrat, le contrat. C'est intéressant, pas dans le cadre de l'analyse de Meillet, parce que, souvenez-vous, Meillet avait basé son analyse de ce que l'on peut savoir d'une religion indo-européenne reconstruite sur le fait que les seules divinités communes à plusieurs domaines indo-européens étaient les divinités qui appartenaient au cosmos, le soleil, la lune, le ciel, etc. Hein, les dieux uraniens étaient en général communs, et eux seulement. Or, ici, nous avons quelque chose de particulier, quelque chose qui n'appartient qu'à Mitra. Il est une allégorie du corps social. est une divinité du corps social. Et c'est ce point-là, essentiellement, que Meillet, sur lequel Meillet insiste. L'analyse de Mitra par le contrat, nous allons y revenir parce que l'Avestique le dit explicitement. Donc, nous, pour notre domaine iranien, nous n'avons pas tellement de questions à nous poser. L'Avestique dit explicitement, c'est le contrat. Hein. Donc là, nous n'avons aucun, n'avons pas de soucis à nous faire à cet égard. Mais il faut savoir aussi que l'analyse de Meillet a été très mal reçue à l'époque. Elle a été très mal reçue par les savants de la génération précédente en 1907. Meillet était jeune, hein, c'était un homme de la nouvelle génération de spécialistes, n'est-ce pas ? Et comme l'a très bien plus tard expliqué Paul Thiem, mais aussi Hans-Peter Schmidt, il y a une part d'incompréhension qui appartient au domaine de nos propres langues à nous. Il est évident que Meillet est français. Lorsqu'il parle de contrat, vous voyez ce qu'il a en tête, que les Allemands n'ont pas nécessairement. C'est le contrat social, bien sûr, de Rousseau. Hein ? Il y a certainement cette coloration culturelle purement française, évidente dans l'article de Meillet, et qui a, à une certaine époque, suscité le scepticisme de savants moins familiarisés par leur appartenance culturelle hein, avec cette notion-là. Alors, la question traditionnelle, maintenant nous y venons, autre point que nous pose le dieu Mitra, quelle est son histoire à l'intérieur même de l'Avesta ? Son nom n'est pas mentionné dans l'Avesta ancien. Son nom n'est pas mentionné. Ce qui, dans la façon traditionnelle d'envisager les choses, a suscité deux positions contrastées. Je vais dire en gros celle de Duchesne d'Yvelines. Ce n'est pas la première, hein, je donne, mais c'est aussi la plus frappante. N'est-ce pas qui nous dira que, puisqu'il n'est pas dans les Gathas, le silence, dit-il, je crois que je le cite exactement, le silence de Zoroastre sur Mitra est voulu, hostile et passionné. Et naturellement, comment savoir si un silence est voulu, hostile et passionné hein ? Yershevitch ou Yarek Torquay, qu'en savez-vous ? Mais l'autre position contrastée est celle de Mary Boyce, hein, qui a publié un article intitulé « On Mitra's Part in Zoroastrianism » pour dire sans aucune raison plus impérative que Mitra devait avoir été accepté par Zoroastre parce qu'il correspondait à ses critères. Mais je n'ai jamais rencontré les critères de Zoroastre ni à pied ni à cheval. Et cela, c'est l'autre position. Alors, qu'en est-il ? Je ne sais pas. C'est une réponse, c'est une de ces questions auxquelles je ne vous donnerai aucune réponse aujourd'hui. Je dois tout de même faire deux remarques à cet égard. Deux remarques dont il convient pour préciser la problématique que cela constitue. C'est qu'il est faux que le nom de Mitra ne figure pas dans l'Avesta ancien. Le mot Mitra est attesté dans une gatha, c'est le Yasna 46.5, qui atteste le mot à l'ablatif pluriel. Mitroibio. Il atteste le mot sans lui donner une valeur péjorative. Au contraire, c'est refuser le Mitra avec quelqu'un, c'est-à-dire un contrat, qui est considéré comme quelque chose de négatif. Mais ce n'est pas la divinité, hein, ce n'est pas la divinité, c'est le concept. Il n'y a pas de personnalisation. Ici, le contexte est assez clair. Ce mot ici ne désigne pas la divinité. Alors la deuxième remarque que je ferai simplement pour serrer la question, c'est faire remarquer qu'aucun des dieux hérités, c'est-à-dire Apamnapat et Vayu, Vayu peut-être, c'est pas très bien, c'est pas sûr, ne sont attestés dans les Gathas. Aucun de ces dieux hérités ne sont attestés. D'autres dieux, ceux qui naissent, sont attestés. Rappelez-vous, hein, Srausha et Ashi sont mentionnés avec un statut divin à part entière dans les Gathas. Je ferai remarquer aussi, il faut tout de même prononcer le mot, que ce que Meillet devait considérer comme le contrat social, comme le contrat, porte un autre nom dans les Gathas. C'est un mot indo-iranien. Nous avons l'équivalent védique. C'est le mot vrata. Vrata. Mot qui a été étudié il y a une quarantaine d'années par Hans-Peter Schmidt dans le cadre du védique. Le vrata, Est-ce que ce mot fonctionne un peu, nous avons, n'est-ce pas, comme nous avons fait l'hypothèse il y a 2 ans pour le mot Fravashi, est-ce qu'il faut imaginer que nous avons une différence de jargon entre des dialectes avestiques, comme ceux du Yasnaraptankaiti et l'Avesta récent, qui parlent de Fravashi pour choix rituel, alors que les Gathas semblent dire Varna. Varna. Autre dérivé, même racine, autre dérivé. Est-ce qu'ici aussi, nous avons une divergence comme ça? Est-ce que le nom du contrat serait Vrata plutôt que Mitra dans les Gathas? C'est possible, mais nous ne pouvons pas non plus l'affirmer. Et je signalerai que Urvata, la forme avestique de ce Vrata védique, n'est pas attestée pour sa part dans l'Avesta récent. Mais un de ces dérivés, la forme adjective qui correspond, c'est-à-dire l'homme qui est lié à un autre homme par un accord, par un traité, par une alliance, là, le mot est bien attesté dans l'Avesta récent, c'est Urvata. On traduit généralement un peu lâchement par ami. Mais des Urvata, ce sont des gens qui sont liés par un accord quelconque, par un contrat, vous voyez, d'Imeye. Alors, voici donc pour la question du destin de Mitra à l'époque de l'Avesta ancien. Maintenant, l'importance de Mitra dans l'Avesta récent. Bien, nous l'avons vu, en tant que Ratu, il est essentiel. Il occupe une place littéralement écrasante dans le Panthéon, directement après Ahura Mazda, qui d'ailleurs n'est pas tout à fait un Ratu puisqu'il est universel. Alors, il est le dieu essentiel du rite Havani qui commence à l'aurore, puisqu'il est le dieu de cette période du jour, la période du jour qui commence avec le lever du soleil et qui s'achève à midi. Par conséquent, c'est son nom qui est mentionné en tête des litanies. Il est donc le dieu qui coïncide, dont le culte doit coïncider avec le début du sacrifice, ce qui fonde son importance. Dans le rite que nous ne pouvons pas très bien définir, nous ne pourrons pas très bien traduire, mais défini comme Pairish Havani, c'est-à-dire autour du rite Havani, et qui préfigure le calendrier, il est mentionné immédiatement comme première articulation du rite avec Ahura Mazda dans le Dvandva qui a été utilisé pour tenter de démontrer la substitution de Mazda à Varuna. Or, ce Dvandva, c'est en tant que chaînon du rite Pairish Havani, c'est pas qu'il est utilisé. Dans cet endroit-là, le premier stade du rite, qui consiste en je ne sais quoi, bien sûr, nous en avons parlé au début de ces cours, Ahura Mitra sont mentionnés immédiatement en tête, et avec eux, ensuite, je dis que c'était la préfiguration du calendrier, les corps célestes, c'est-à-dire la lune, le soleil, l'étoile Tishtria. C'est-à-dire, nous avons ainsi les dieux qui peuplent la deuxième semaine du mois. Enfin, justement, si nous parlons du nom des mois, je vous ai fait, c'est aussi une façon d'être Ratu, même si l'Avestique ne le mentionne pas, Mitra occupe l'équinoxe d'automne, ce qui est tout de même une position stratégique dans un calendrier, l'équinoxe d'automne. Enfin, il y a, ça c'est l'autre trait important, nous quittons le domaine de la liturgie longue pour celui de nos yashts que nous étudions, bien, son yasht est imposant. C'est un des 3 longs yashts. Le plus long, c'est celui des Fravashi, 159 strophes. Mais une grande partie est occupée par une énumération de pronoms, de noms propres, pardon. Donc il n'y a pas, si je puis dire, entre guillemets, de littérature à ce moment. Enfin, il y a celui de Mitra, c'est le deuxième en longueur, 146 strophes. Puis vient celui, le troisième, dans l'ordre de longueur, celui de la déesse Anahita, 133 strophes, mais ici aussi, il y a quelque chose, une grande partie du yacht est convenue, puisque c'est un de ces yachts qui comporte un catalogue des sacrifiants. Or, c'est très long, et ce n'est pas un texte qui est propre à Naïta, on le retrouve dans trois autres yashts. Donc on peut considérer que le yasht de Mitra est d'un point de vue littéraire le plus imposant, peut-être, le plus imposant, le plus long. Notre problème, puisque nous allons parler de lui, c'est que ce yasht fait difficulté pour bien le comprendre. La difficulté, c'est qu'on a une impression permanente de répétition. Dès lors, vous comprendrez, dès que cette impression se manifeste, s'impose à vous, vous voyez immédiatement que ce texte va jouer un rôle important dans la discussion que nous avons déjà eue et qui essaie de savoir si les yashts sont des textes homogènes, ce qui était la position de Yashkevitch, puis de manière plus argumentée, celle de Cherveux, ou si son yasht est un collage, est un manteau d'arlequin, comme dirait Pirard, n'est-ce pas ? Où l'on a collé plusieurs textes qui finalement disent tous à peu près la même chose au sujet du dieu Mitra. C'est très difficile de le savoir. Il dit que le reproche, je l'ai mentionné, j'y reviens ici, que je puis faire à l'analyse que Cherveux a fait de cette question, nous l'avons évoqué lors de toute première leçon, et que son analyse porte sur les thèmes. Chaque yasht, dit-il, comporte un certain nombre de thèmes obligés. Bien, très bien, mais ces thèmes sont extrêmement généraux et on peut se demander s'ils ont même une certaine pertinence parfois. C'est pas l'adoration de la divinité, description de l'activité de la divinité. Je ne sais pas si tout ça est toujours très pertinent. Alors, nous allons appliquer, après avoir encore un peu discuté de toute autre chose, nous allons appliquer la méthode que nous nous efforçons peut-être depuis quelque temps d'appliquer, c'est-à-dire de nous en remettre au caractère formel, à des éléments formels dans le cadre de la création littéraire des yashts. Alors, je voudrais aussi, avant cela, mentionner deux faits. D'abord, ce sont les fonctions de Mitra. On a souvent abordé le problème de Mitra en tentant de définir ses fonctions, car il faut nécessairement parler au pluriel ici. Bon, alors, les choses peuvent être synthétisées de la manière suivante. Je vois que ça ne nous aide pas non plus à adopter une vision très cohérente de la personnalité de la divinité. Le schéma est le suivant. D'une manière assez générale, on reconnaît qu'il est le contrat. Il est l'allégorie du contrat. Donc ça, ce serait le sens de base. C'est son aspect proprement Mitra, comme le Mitra védique, personnalité du Mitra védique. Il est le dieu auroral par excellence, dieu auroral. Donc ça, c'est son activité, comme nous disions, en tant que ratou, mais son yasht le décrit effectivement comme une lumière, une sorte de lumière qui apparaît avec l'aurore. Je vais faire d'abord le tableau, excusez-moi. Alors, il y a des traits évidents qui ne sont pas extrêmement fréquents, mais c'est un dieu qui exerce une certaine influence sur la fécondité. Il donne une descendance, il fait tomber la pluie, il fait pousser les plantes, etc. Enfin, massivement, bien sûr, c'est un dieu guerrier. La guerre. Alors, si nous sommes du Mésilien, nous voyons qu'ici, il manque quelque chose. C'est la fonction magico-religieuse, mais on peut la situer ici, hein, au stade du contrat, bien entendu. Alors, voilà le tableau. La manière que l'on peut avoir d'expliquer une telle disparité de fonctions, c'est de reconnaître que dans la personne de Mitra, ont congrué un certain nombre d'autres divinités dont nous avons le nom en védique. Le Mitra védique serait le contrat, essentiellement. Hein, il exerce la fonction magico-religieuse avec Varuna. Ça, c'est le Mitra védique, essentiellement. La fonction aurorale, mais nous avons déjà parlé de lui, je pense, c'est le dieu védique Savitar. Le dieu incitateur, ce qui signifie l'incitateur, il est celui qui fait se lever les hommes le matin, mais pour être complet, il faudrait ajouter, c'est aussi celui qui les fait aller au lit le soir. C'est l'incitateur général, ce n'est pas une fonction aurorale. Vous voyez les limites de ce type d'analyse. Alors, la fécondité, elle serait due à Varuna, qui est un dieu de l'eau, qui est un dieu des espaces aquatiques. Ce serait Varuna et la guerre Indra. Donc, le dieu avestique tiendrait une part de son importance et la disparité de ses fonctions du fait que sa personnalité réunit un certain nombre de prérogatives qui étaient exercées de manière personnelle par un certain nombre de personnalités dans les hymnes védiques. Alors, il y a une manière, par contre, de simplifier tout ça. Il y a une manière de simplifier ça qui serait la suivante. C'est l'analyse de Paul Thiem. La fécondité et la guerre, ça fait partie de l'arsenal, dit Paul Thiem, des récompenses et des punitions. Si le dieu du contrat punit et récompense, alors la fécondité et la guerre, ça fait partie de ses prérogatives, car il donne la fécondité, il donne la victoire dans le combat, ou au contraire, il contraint à la stérilité et il participe à la défaite des méchants. Bon, ça, c'est un élément de simplification. Quant à l'aurore, cela appartiendrait, selon Thiem, à la mythopoésie. Le dieu qui est le contrat personnifié, bien sûr, occupe le ciel, parce que le ciel est la position de guet universel. Mitra est un guetteur. On nous parlera, il a un corps, mais c'est un corps mythopoétique, c'est-à-dire que les seuls organes qu'il ait, ce sont des bras, parce que c'est comme cela qu'il conduit les combats, il frappe nécessairement, et puis il a des organes sensoriels, des yeux et des oreilles essentiellement, ce qui font partie de sa personnalité de guetteur. Il surveille en permanence si les contrats sont ou non respectés. Donc nous avons là, nous aurions un trait qui s'expliquerait essentiellement par un phénomène littéraire. Ça, c'est la position de Paul Thiem. Nous allons essayer simplement de peut-être d'échapper un peu à ce cadre-là, à la fois au cadre de la réunion des personnalités divines, celui des grandes fonctions, etc. Alors, je dirais que oui, c'est le contrat. D'abord, c'est le contrat. Et c'est tellement le contrat, essentiellement, fondamentalement, que son yacht commence comme cela. Le premier quartet de son yacht, c'est un frashna. Donc le texte n'entre pas dans la catégorie à proprement yacht. C'est une conversation, semble-t-il, démembrée, parce qu'on n'a pas les questions de Zarathoustra, mais visiblement, on a les réponses. Ahura Mazda répond à Zarathoustra et lui dit, voilà, sa déclaration est explicite, j'y ai fait allusion, il va dire, il va lui dire que oui, c'est le contrat. C'est le contrat. Et il ajoute dans la deuxième strophe, c'est la deuxième strophe du Yacht 10, cette très intéressante remarque que Mitra vaut pour les deux, à la fois pour celui qui est Drugvant et pour celui qui est Achavan. Donc l'ordre qu'Ahura Mazda donne à Zarathoustra est très clairement celui-là. Les contrats doivent être respectés, même s'ils sont conclus avec quelqu'un qui est religieusement défaillant. Dans une certaine manière, l'éthique de Mitra n'est pas l'éthique dualiste basique. Les manquements religieux, ici, passent au second plan par rapport à la fidélité aux engagements contractuels. Je crois que c'est peut-être ici que vous savez qu'on a fait grand cas, on a essayé de découvrir ça dans le texte, mais cela manque aussi de cette information qui n'a rien à voir avec le Mitra des mystères, mais que nous devons à Plutarque. Il nous dit que Mitra est Mécites, c'est-à-dire intermédiaire, médiateur, entre Ahura Mazda, Oromazès, pour le dire Mécites, et Araimanios, donc le mauvais esprit. Ça ne se dit nulle part dans son voyage. Non, c'est un dieu fondamentalement du bon côté. C'est un dieu aurique. Ce n'est pas un dieu qui a quoi que ce soit à faire avec le monde du mal. Mais en ce sens, on peut comprendre où est la confusion de Plutarque. peut comprendre là où se situe la confusion. C'est-à-dire qu'un contrat est valable quelle que soit la qualité religieuse des contractants. C'est peut-être à cet aspect du Dieu que fait allusion Plutarque. Donc, Mitra étant un dieu du corps social, c'est un dieu du corps politique, et cela se traduit dans sa personnalité, bien sûr, toujours bien analyser le refrain, la formule de base du Yash dans Yasamaïdé. Or, il est clair que l'épithète la plus personnelle de Mitra, lui est d'ailleurs personnelle, et celle qui colle le plus étroitement à sa personnalité, de telle sorte même que le Yasamaïdé est déplacé au-delà de cette épithète, Mitrum, l'épithète, et puis Yasamaïdé, n'est-ce pas ? Donc, l'intervalle n'est pas occupé par le verbe, le contact n'est pas interrompu par le Yasamaïdé, et cette épithète est Vurugaoyaoïti. Nous avons l'équivalent védique. C'est un apax dans le Rig Veda, Urugavyuti. Urugavyuti, c'est un apax et c'est un adjectif appliqué à Soma. À Soma, pas à Mitra, à Soma. Donc, le mot existe, mais son utilisation n'est pas fréquente en védique. Et puis, bon, les personnalités ne correspondent pas, Soma. Or, mais c'est un mot intéressant dans le cadre iranien, parce que ça paraît bien un mot fossile. Vous savez que l'iranien se distinguera là, linguistiquement, du point de vue lexical de l'indien, par les mots qui se réfèrent au pâturage, à la pâture des animaux, hein, puisque des mots comme vastra, on trouvera plus fréquemment vastra, la pâture, et quelque chose qui est formé sur une racine vas, sont les mots usuels en iranien, ils n'ont pas d'équivalent védique, tandis que nous avons ici la racine you védique qui se rapporte à tout ce qui concerne le fait que l'on fait paître les troupeaux. Quelque chose me gêne un peu, que seul, je crois, Duchesne d'Imain a essayé de résoudre avec ce mot. Traduire par qui a de larges pâtures laisse un petit sentiment d'insatisfaction. Parce que c'est un mot anti. Or, le mot anti forme des noms d'action, à coloration fortement abstraite. Alors ici, c'est assez difficile à comprendre, et Duchesne d'Imain a tenté de préciser la nuance du mot en proposant de voir dans ce mot yuti le fait non pas de faire paître littéralement, mais d'accorder des droits de pâture, qui donnent de larges droits de pâture, a-t-il dit. Bon, c'est possible, c'est une conjecture, on ne peut pas naturellement démontrer ça avec la faiblesse ou le caractère entièrement figé des attestations du mot figé dans la Vesta, extrêmement rare dans le Rig Veda. Donc, on serait à nouveau dans le domaine du, bien sûr, du contrat social, ce qui régit les droits de pâture. Bon, autre chose aussi, deuxième détail de cet aspect politique de Mitra, c'est que c'est le seul dieu qui exerce une fonction d'autorité directe sur les groupes sociaux. N'oubliez pas, hein, les cercles concentriques de l'appartenance sociale, la famille, le clan, la tribu, la nation, eh bien, littéralement, Mitra est Dankhupaiti, chef de nation. Il est le chef de nation, dit le texte, de toutes les nations. Chaque nation a pour chef Mitra. Le yasht de Mitra est d'ailleurs le seul yasht qui atteste, mais avec des détails extrêmement difficiles à interpréter, un ensemble politique plus vaste que la nation. Il y a, oui, d'abord ceci,
le fait qu'il y a un seul Dinkupaiti pour tous les Dharyupaiti, pour tous les Dharyu, pour toutes les nations, qui est Mitra. Il y a aussi un mot un peu énigmatique, mais qui semble coiffer l'ensemble des cercles de l'appartenance sociale, le nom de la nation, et puis Sasti. Mais c'est un mot que je ne comprends pas. C'est un mot que je ne comprends pas parce que la racine, dont le mot Sasti est bien connu. Je connais le mot Sasti, je connais le mot d'un coup. Mais ce qu'ils font ensemble dans le composé, je ne sais pas. C'est l'énoncé qualifiant. Pas, c'est la racine sangre, indien shams, c'est-à-dire dire quelles sont les caractéristiques de quelque chose, comme l'a dit Dumézil. Hein, c'est le verbe de l'énoncé qualifiant. Alors, quel est le Dinku Sasti ? Le rapport entre les deux mots ne paraît pas extrêmement évident, et comme il n'y a qu'une attestation, nous ne pouvons pas la vérifier. Bien, je dirais que aussi le caractère politique encore se traduit aussi dans le fait que de tous les dieux, mazdéens, il est peut-être le plus antipathique. C'est une brute. Bien, c'est un dieu qui se met en colère. Il est colérique. Granto, le mot revient souvent. Il est irrité, il est en colère. Il est impitoyable aussi. Hein. Lorsqu'il frappe, il frappe sauvagement. Hein. Lorsqu'il est nécessaire de donner 10 coups, il en donne 100. Hein. Donc, un dieu impitoyable et colérique. Avec deux passages récurrents, strophe 23, strophe 48, qui nous dit que, bien, mon Dieu, il vite les oreilles, il voile la vue de ses ennemis, il ôte la fermeté de leurs pieds, il ôte la force de leurs bras. J'ai peur que ce soit des euphémismes. Ça rappelle furieusement, peut-être, le traitement que Darius pouvait faire subir à ceux qu'il appelle des imposteurs. Hein, et qu'il y a certainement, sous cette banalité, peut-être du trait, hein, un adversaire qui tombe subitement complètement impuissant en face de la divinité, il y a peut-être aussi l'image, littéralement, des supplices, des punitions véritablement physiques que les chefs temporels font subir. Ça, je suis intimement persuadé qu'il y a de cela. Alors, si cela est correct, on voit un peu mieux ce qu'est Mitra, n'est-ce pas ? C'est un dieu Mahinyava. Il est dans le domaine du non matériel. Il est dans le domaine de la pensée. Mais il agit, Hiketnak, parmi les hommes comme un chef politique le ferait. Je dirais que c'est un dieu politique, un dieu social, oui, mais on pourrait même le percevoir très exactement comme la sublimation de la personne du chef. Il est la version divine, l'image divine de ce que sont les chefs temporels. J'ose pas dire roi, je suis gêné, je vais pas dire roi. Je vais pas dire roi parce que Dinkupaiti, c'est un mot extrêmement empirique, ça veut dire chef de nation. Je ne sais pas s'il est loisible de traduire par roi ou non. Vous savez que la royauté implique des choses extrêmement diverses. Nous n'en sommes pas là. Alors, bien sûr, le problème aussi auquel nous trouvons confrontés, quel est ce pouvoir politique ? Quel est l'état politique, n'est-ce pas, de la société qui a produit les textes constitutifs du mariage ? Là, nous n'en savons strictement rien. Hein, cette belle construction télescopique, si simple en réalité, nous rend les choses assez indéfinies, n'est-ce pas, puisqu'il y a des chefs de famille, des chefs de clan, des chefs de tribu, des chefs de nation. C'est tellement simple que nous n'arrivons pas à saisir les aspects complexes que le pouvoir politique pouvait malgré tout prendre à l'époque avestique. Alors, vous voyez, si nous faisons de cette... Effectivement, hein, nous, si la fécondité, la guerre, bien mon Dieu, si Mitra est la figure divine du souverain, nous voyons bien que ces deux actes de choses participent du devoir des font partie, sont du ressort des souverains.
Alors, je vous disais, on a l'impression, nous allons arriver à ces remarques, ce sont peut-être les remarques nouvelles par rapport à mon exposé d'il y a 12-13 ans, n'est-ce pas ? C'est que c'est en revenir à ce qu'est la structure littéraire même du Yajd. Nous avons le sentiment, vous disais-je, d'une répétition permanente des mêmes thèmes. Oui, mais il y a deux thèmes alternants. Il y a deux thèmes alternants. Et l'alternance est même si bien respectée, si bien rythmée, que je pense que Miryajd n'est pas un texte certainement pas homogène, mais que sa constitution a été réfléchie. Si même on a assemblé des passages venus de... des passages divers, on l'a fait comme on l'a fait pour le Homestorm, avec une intention. L'alternance, bien, c'est celle justement de ce Dieu terrible qui punit. Ce Dieu terrible qui punit, qui écrabouille les ennemis, bien, ça, ça réapparaît en permanence. Mais alors, il y a aussi l'autre thème, c'est Mitra en tant que cible sacrificielle. Et ici, c'est étonnant. Mitra est un dieu dont le Yajd va affirmer, bien entendu, qu'on lui rend le sacrifice. Et on va le faire dans le courant de son Yajd 7 fois. 7 fois, on va décrire Mitra comme cible sacrificielle. Et chaque fois, ce sera d'une autre manière. Chaque fois d'une autre manière, dans la perspective de présenter le sacrifice, ce qui est une chose que nous devons envisager aussi. Alors, nous sommes guidés à travers ce réseau, cette alternance entre la description des massacres auxquels se livre Mitra et puis sa majesté de cible sacrificielle. Nous sommes guidés par un fil conducteur qui n'est pas un thème, mais une sorte de point de repère qui est, comme dans les gathas fréquemment, ce qu'on appelle la récurrence lexicale, c'est-à-dire la répétition des mots. Hein. Les mots se comportent, selon l'expression de Hans-Peter Schmidt, hein, la répétition des mots sert à faire ce qu'il appelle la concaténation. Hein, la concaténation. Alors, d'abord, le Yajd 10, 28 à 34, cette strophe, premier sacrifice. C'est un sacrifice en raccourci, c'est un sacrifice coïncident surtout. Celui qui parle, le locuteur, dit « je sacrifie un mitra », simplement. L'affirmation du sacrifice en coïncidence, comme l'aurait dit Hoffman, pas la coïncidence, c'est « je te baptise », etc. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, ce sont ces affirmations qui font que ce que l'on fait et ce que l'on dit se recouvrent parfaitement. Donc, je fais le sacrifice à Mitra. C'est un sacrifice coïncident. Alors, ici, peut-être comme dans... il y a une très belle combinaison sur 6 strophes, simplement. Il n'y a que 6 strophes, parce que la septième est le complément de la sixième. C'est le même ensemble syntaxique. On voit différentes façons d'affirmer le sacrifice qui... différentes. Il y a, pour commencer, à l'appui du sacrifice, ce qu'on appelle en sanskrit une satyakriya, c'est-à-dire l'on affirme la puissance du Dieu. Tu peux faire ceci, tu diras cela. Satyakriya, c'est l'énoncé d'une vérité. Donc l'énoncé de la force du Dieu. Et puis, on passe au genre yasna, proprement dit, c'est-à-dire les phrases en yasamaïdé ou en yasaï, je sacrifie, nous sacrifions. C'est le yasna, proprement dit, ce qui correspond au style yasht. Ensuite, on va lui demander certaines choses. On va lui demander certaines choses. Ce sont des demandes à l'impératif. C'est ce que le yasna hatankaiti appelle assez clairement un varma, c'est-à-dire un chant d'adoration, le chant d'adoration, le varma. Et puis, enfin, on passe à une demande. Hein, on demande. Yasami, je demande, ou Yasamaïdé, c'est le genre Yana, défini aussi dans les gathas, la demande. Yana. Puis, premier fil conducteur, premier mot récurrent, c'est le Maïtana, le mot Maïtana qui réapparaît pour souder les ensembles qui vont se développer. Le mot Maïtana apparaît dans la strophe 44. Il réapparaît
dans les strophes 49 et 50. C'est-à-dire que Mitra est le dieu qui a un Maitana. Maitana, ce n'est pas proprement parler une maison, c'est un poste, l'endroit où l'on se tient pour exercer une activité. Or, cette zone d'activité est apparemment extensible. Ahura Mazda a construit le Maitana de Mitra bien au point de l'aurore, au sommet de la montagne de l'aurore, donc l'endroit où il va apparaître au matin, la Hara, ce qui veut dire la garde, le poste de pointe sur la surveillance, la Hara. Et d'autre part, mais en tant que lumière du jour, avec le temps passant, le domaine de Mitra devient la terre tout entière. Zem Frato, son Maitana a la même étendue que la terre, car la lumière se diffuse depuis la Hara. Alors, il semble, j'avais insisté sur ce point dans mon exposé d'il y a 12 ans, il y a peut-être une rupture à l'intérieur du Yasht à la strophe 52. À la strophe 52, l'adversaire, celui que Mitra va combattre, change de nature. Ce ne sont plus les machias, les mortels, les hommes qui dénoncent les contrats, qui trompent les contrats. L'adversaire se fait singulier. Et la manière dont il les définit montre qu'il appartient au monde divin négatif. C'est le Doujda. On ne nous dit pas si c'est un Gramainyu, si c'est Aishma, de quel démon il peut bien s'agir. Mais c'est, donc, je dirais que pour la Vestarisan, Doujda peut, pour le sens, être traduit très simplement malfaisant. Mais le sens étymologique de base, celui des gata, c'est avare, l'avaricieux, hein, l'avaricieux, c'est-à-dire celui qui n'est pas généreux dans le rite, ou bien pour répondre au sacrifice. Car Houda et Doujda, ce sont des termes qui s'emploient pour les divinités à proprement parler. Alors, à partir de 53, c'est le deuxième sacrifice. Alors, ici, ce sacrifice est introduit par un nouveau repère lexical. C'est le verbe « garz », il est rare dans l'Avesta. Il est d'autant plus remarquable qu'il se reproduise dans le Yasht de Mitra. C'est la plainte, la plainte. Ah oui, c'est un genre, ça peut être un genre liturgique aussi. On se plaint aux divinités de quelque chose, pour qu'elles vous aident. Or, c'est le cas de Mitra. Mitra lui-même va émettre une plainte. Et il va le faire, c'est aussi un mot qui est attesté dans les gathas, dans une position qui est définie par le composé Ustanasasta, les mains tendues. C'est la position de la plainte, semble-t-il. Nous connaissons le mot en védique, attesté aussi, Uttanahasta, les mains tendues. Composé. Donc, vieille formulation ritualiste indo-iranienne. Or, ici, c'est une chose assez surprenante. Cette plainte consiste en l'énoncé d'un irréel du passé. C'est fréquent dans l'Avesta. Souvenez-vous, nous avons vu ce genre dans le Yasht 13. Il semble que la littérature avestique a connu un genre dont nous avons recueilli certaines clausules, certaines expressions, parce que c'est trop systématique. Dans le Yasht 8, ça apparaît dans le Yasht 13, un genre qui consistait à faire une supposition irréelle. Que serait-il arrivé si dans le passé, il n'y avait pas eu ceci ? Dans le Yasht 13, cet énoncé devient, bien entendu, « si les Fravashi ne m'avaient pas aidé », dit Ahura Mazda, « alors le mauvais esprit l'aurait l'emporté », etc., etc. Mais ici, la plainte à l'irréel du passé de Mitra est la même que celle de l'étoile Tishtria. Si les hommes, dit-il, m'avaient offert le sacrifice avec énoncé du nom, j'aurais quitté le temps non découpé qui est le mien, Mitra soumis à un temps non découpé, pour venir à leur aide dans le temps découpé. Twarshta coupé ou Atwarshta non découpé. Donc, quitter le monde des dieux pour venir dans le monde des hommes. Cette phrase est surprenante parce qu'elle semble impliquer que le sacrifice à Mitra ne va pas de soi, n'était pas pratiqué dans un passé indéterminé. Dans la même situation se comprend dans le Yash de Tishtria. Dans le Yash de Tishtria, bien sûr, Tishtria fait la même plainte. Comme Mitra, il va la répéter une deuxième fois. Mais là, ça se comprend. La répétition se comprend. Ça se comprend parce que, il faut m'offrir le sacrifice. Les hommes offrent le sacrifice à Tishtria. Tishtria affronte son adversaire, le démon de l'évaporation, sont tous les deux la forme de chevaux, souvenez-vous. Mais il est vaincu. Il est vaincu. Donc, le sacrifice n'a pas suffi. Il va répéter sa plainte. Et cette fois-ci, les dieux vont lui sacrifier. Ahura Mazda va lui faire sacrifier. Et après ce second sacrifice, le sacrifice divin, Tishtria l'emporte. Donc, la répétition a un sens. Chez Mitra, apparemment, elle n'en a pas. Elle n'en a pas. Il répète deux fois cette plainte, cette affirmation d'un irréel du passé, après un assez long intervalle. C'est aussi un fait un peu surprenant. Il y a un intervalle où réapparaît le dieu répressif, réapparaît entre des strophes 60 à 72, et la répétition. Alors, troisième point un peu surprenant, vous voyez, nous ne faisons guère que déceler certaines anomalies, mais qui pose un problème dans tous les yachs, toujours. c'est le temps, c'est le temps des verbes. Car la première plainte de Mitra, c'est un présent, il se plaint. Ahura Mazda. Le deuxième, c'est autre chose. Le verbe est un optatif présent augmenté, c'est-à-dire un itératif du passé. Donc, il n'arrêtait pas de se plaindre. Quelle est la forme ? Donc, plus exactement, le verbe plaindre n'est plus utilisé, il lève la voix. Vachim avaroit. C'est le verbe bar. C'est un optatif, il y a un hautement. Donc, un itératif du passé. Il n'arrêtait pas d'élever la voix en disant « Si les hommes m'avaient offert le sacrifice avec énoncé du nom. » Et cela, c'est le troisième, c'est la troisième mention, la troisième apparition de Mitra comme cible sacrificielle. Alors, quatrième apparition, strophe 88 à 94, le sacrifice d'investiture que Ahura Mazda lui fait rendre par Hauma. C'est une longue description. Nous l'avons analysé dans un autre but, c'est-à-dire nous l'avons analysé pour montrer que le sacrifice de Hauma dans le Yasht, ça correspond très exactement à un yasna, au yasna que nous avons. Nous pouvons observer dans le sacrifice de Hauma le cursus du yasna que nous possédons. Pas le déploiement du barsom, la déclaration fravarané, la récitation de l'Aveste ancien, etc. Donc, sacrifice d'investiture qu'Ahura Mazda lui fait rendre. Cinquième sacrifice, il est conseillé à Zarathoustra. C'est un texte data, donc un texte prescriptif à l'optatif, où Ahura Mazda dit, nouvelle perspective à nouveau, Mitrum Yazaïcha, sacrifie Yamitra, au Spitama Zarathoustra. Vous voyez, il faut une autre perspective. Après le donc là, si l'on veut, on pourrait voir dans la suite le premier sacrifice qui est coïncident exprimé par Yazaï. Alors il y a les deux plaintes de Mitra de l'optatif parfait. Yazayanta, si l'on m'avait offert le sacrifice, Yazayanta. Excusez-moi, ce n'est pas, il faut que je fasse un peu de place. Yazaï, les deux autres sacrifices, Yazayanta, si l'on m'avait sacrifié. Désormais, le sacrifice de Hauma, c'est un passé, Yazata. Maintenant, Yazaïcha, optatif présent, sacrifie au Zarathoustra. Le sixième sacrifice, il a tout l'air de raconter un mythe. Ahura Mazda lui-même sacrifie un Mitra. On retrouve le Yazata du sacrifice de Hauma. Il sacrifia. Et il semble que ce soit la mise en route de Mitra. Lorsque Ahura Mazda lui sacrifie, il attelle son char
et il se met en route. Il va combattre les démons qui menacent le ciel. Donc c'est une sorte d'impulsion, l'impulsion sacrificielle d'Ahura Mazda. Alors, septième et dernier sacrifice, c'est le sacrifice ultime, celui qui renoue avec le premier, Yazai. Je sacrifie, sacrifice coïncident. Vous voyez, c'est une curieuse... Nous avons ici sept sacrifices. Il n'y a que six formes verbales, parce que celle-là est employée deux fois. Et l'on voit que nous avons une assez belle palette de formes verbales issues de la racine Yaz. Alors, voilà l'autre fil conducteur. Il y a en permanence la description des répressions, des punitions... armée que Mitra inflige à ceux qui trompent le contrat ou bien à ses adversaires démoniaques, parce que ce n'est pas toujours très clair si l'adversaire est humain ou s'il est un démon. Le Dushta, je vous le rappelle, c'est un exemple très clair. Et d'autre part, il y a ce fil qui présente les différentes manières, les différentes perspectives que l'on peut avoir de rendre le sacrifice à Mitra. L'information que nous livre le Yash, l'information n'est pas très grande, parce qu'en définitive, cela se recouvre. Il y a d'un côté la répression et d'un côté le sacrifice. Mais là, je dirais, le yashta de Mitra comme celui de Tishtriya, ce qu'ils ont en propre, c'est ce passage que nous ne comprenons pas bien pour les trois raisons que je vous ai expliquées. Il n'y a pas de catalogue de sacrifiants, comme dans beaucoup d'autres yashtas, comme dans quatre autres yashtas. Pas de catalogue de sacrifiants. Mais il y a cette supposition à l'irréel du passé que le Miryasht suppose avec l'étoile Tishtriya. Ce n'est pas un Yasht du passé, le Yasht de Tishtriya et le Yasht de Mitra. Je ne peux pas, même si je ne suis pas parfaitement, même si je ne suis pas capable de parfaitement traduire de manière explicite ce que cela représente, de distinguer bel et bien la dialectique de cet exposé. Mais Tishtriya, nous avons parlé de son mythe de conquête saisonnier de l'eau. C'est typiquement une divinité du quatrième âge du monde. L'étoile Tishtriya n'a pas de sens quand le monde est à l'état mental. Tishtriya n'a pas de sens quand le monde est immobile. Tishtriya n'a pas de sens non plus quand le monde se met en marche, mais comme vous le savez, avec des eaux asservies, puisque l'action de Traitauna et celle des Kavi consistera à libérer le climat et les eaux. Tishtriya n'intervient que lorsque les eaux sont libres, c'est-à-dire notre âge, c'est pas notre âge du monde, le monde mobile avec la religion. Alors Mitra, dans une certaine mesure, est dans le même cas. Mitra, c'est la même chose. C'est un monde qui est soumis au pouvoir politique des hommes. Il y a un certain degré de civilisation nécessaire et qui n'apparaît que dans notre âge du monde pour que la personnalité ou les fonctions de Mitra soient bien compréhensibles. Alors, d'une manière ou d'une autre, je ne le sais pas, mais je crois que c'est là le petit point explicatif qui explique que son yasht soit centré, parce que c'est cela qui occupe massivement le cœur du yasht, sur autre chose qu'un catalogue des sacrifiants du passé. Mais au contraire, cette plainte à l'irréel du passé et cette pression pour que l'on sacrifie aujourd'hui, maintenant. Je ne peux pas le dire avec plus de précision, parce que je ne sais pas exactement, je ne peux pas dégager exactement quels sont les modes de raisonnement les plus ténus qui sous-tendent cette représentation des choses. Mais Tishtriya et Mitra sont, si vous voulez, je terminerai par ça, des dieux actuels. Je vous remercie.